On vous connaît beaucoup comme le monsieur météo de TF1, mais ce que la plupart des gens ne se rendent pas compte, c'est que vous êtes quand même un scientifique à côté. Vous pouvez me parler un peu de votre parcours côté météorologie?
Oui, bah c'est vrai que moi, on le sait peu, ou en tout cas certains le savent maintenant, c'est que c'est vrai qu'avant d'être journaliste, j'ai d'abord été un scientifique. Hein, j'ai d'abord effectivement fait l'école de la météorologie, et puis ensuite j'ai passé 14 ans à Météo France à faire de l'observation, de la prévision, et notamment de la prévision pour des milieux très spécialisés comme la voile. Et c'est en faisant d'ailleurs de l'assistance à la voile, en étant navigateur pour des gens comme Florence Artaud, comme Paul Vatine, comme Yves Parlier. J'ai travaillé avec Perron, par exemple, enfin des gens comme ça. Et c'est à travers ce travail-là que je suis venu aux médias, parce que c'était un sport qui était assez médiatisé, la voile. Et donc c'est comme ça que j'ai basculé dans les médias. Mais avant, effectivement, d'être journaliste, j'ai été un scientifique et un météorologiste, ce que je suis encore d'ailleurs.
Alors j'aimerais avoir votre avis sur les plus grandes thématiques du climat. Je pense notamment au réchauffement climatique. Je sais que dans le Nord-Pas de Calais, cet été, on a été très impacté. Localement, on a atteint des températures de 42 degrés. Des fois, c'était même plus chaud que ce qu'on pouvait avoir dans le sud. Comment ça s'explique, ces phénomènes?
Ah ben, en fait, c'est dû aux différentes influences. Hein. La richesse, d'ailleurs, de la climatologie en France, elle tient à ça. On a une telle diversité de paysages. Pourquoi? Parce que 1000 km sur 1000 km, on a l'influence continentale, et ici, on l'a un petit peu. Et on a l'influence océanique, ce qu'a plutôt la Bretagne, puis l'influence méditerranéenne quand on est dans le sud. Et bien, au gré des différentes influences, on voit le climat, et on voit surtout la météorologie évoluer. Et pendant la canicule, plus on allait vers l'est et le sud, plus évidemment on avait cette influence continentale avec cet air méditerranéen. Donc voilà pourquoi dans la moitié est, on a connu des températures très élevées, ce qui n'était pas le cas près de l'Atlantique, où là effectivement l'air encore un peu océanique, la présence de l'Atlantique a limité, entre guillemets, la hausse des températures. Donc voilà pourquoi plus on va vers l'est, plus on va vers les zones, même si ici on est un peu en bord de mer, on est quand même plus proche de ces zones continentales. Donc voilà pourquoi on peut connaître du froid. C'est la même chose quand il fait très froid. On a en général beaucoup plus froid ici qu'en Bretagne, parce que l'Atlantique joue comme un modérateur de température, soit quand c'est excessif vers le haut, soit quand c'est excessif vers le bas.
Et je prends par exemple des conséquences directes du réchauffement climatique, c'est la sécheresse. Je pense que dans notre région, on a une région quand même assez agricole et les agriculteurs étaient assez touchés par cette sécheresse. Est-ce que ça va s'empirer au fur et à mesure des années? Est-ce qu'il y a des solutions pour parer à ça?
Alors, des solutions, oui. Après, quelle sera l'évolution dans notre pays au niveau température? Moi, là-dessus, j'ai un discours qui est un peu plus, encore une fois, qui est plus modeste et plus humble par rapport à ce qu'on entend en disant, en 2050, il y aura plus 10 degrés, plus 15 degrés, on fera du Bordeaux dans la vallée de la Loire et autres. Ça, moi, je me refuse à faire ça parce que on n'en sait rien. Aux latitudes tempérées, ce que ça va devenir, on ne sait pas. La seule chose, c'est que la température moyenne augmente. Ça, on le constate tous. Après, sur les conséquences, on les mesure très facilement sous les tropiques. Là, on sait que malheureusement, les zones désertiques peuvent progresser, les sécheresses peuvent progresser, même si on a les moyens de compenser un petit peu. Et puis même chose au niveau des pôles. On voit que la fonte des glaces s'est accentuée, la fonte des glaciers et autres. Mais dans les latitudes tempérées, c'est-à-dire là où on se trouve, on est à mi-chemin entre le pôle et l'équateur, mesurer les conséquences, et d'ailleurs quand on lit les conclusions du GIEC, dans ces zones-là, ils sont beaucoup plus modérés. On a du mal à savoir. D'ailleurs, quand vous interrogez les scientifiques du GIEC, vous dites alors, tel cyclone, telle canicule, c'est le réchauffement ou c'est pas le réchauffement? Et vous verrez que très souvent, ils disent... On ne sait pas, c'est peut-être, peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'à ces latitudes-là, les effets du réchauffement global peuvent être différents. Je prends juste un exemple que vous avez tous eu, c'est que si effectivement ce réchauffement se confirme, il est possible que dans l'Atlantique, le Gulf Stream, qui nous apporte, nous, ces températures relativement douces, eh bien disparaît. Et bien si ce Gulf Stream disparaît, d'un seul coup, nous, on aura une petite ère glaciaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va retrouver un temps du Moyen-Âge, comme on a eu, avec de la glace, avec des hivers très rigoureux. Donc, dans un réchauffement global, il y aura peut-être localement des effets un peu contraires. Voilà, donc c'est pour ça que c'est compliqué d'estimer... Moi, je me refuse à faire ça. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais honnêtement, la science aujourd'hui ne peut pas le dire de manière formelle.
En parlant d'effets contraires, on entend de plus en plus parler de prévisions par rapport à cet hiver où beaucoup de personnes nous disent que l'hiver sera rude et glacial. Alors comment c'est possible qu'il y ait un réchauffement climatique et qu'en même temps, en hiver, on connaît un hiver encore plus froid au final?
Oui, mais c'est là que la discussion, la façon d'intégrer effectivement ce réchauffement et ses conséquences, c'est compliqué. Parce que effectivement, c'est pas parce que de temps en temps, on va encore avoir des hivers très rigoureux. C'est arrivé aux États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump s'en est emparé immédiatement. Les deux derniers hivers aux États-Unis ont été incroyablement froids. On a battu des records d'enneigement, des records de froid. Déjà là, la saison commence très tôt. Il y a eu de la neige très tôt. Il y a eu des records d'accumulation de neige au Canada. Bon, voilà, on peut se dire, bah alors, mais il est où le réchauffement? Non, ça se mesure de manière beaucoup plus globale et surtout dans une temporalité qui est beaucoup plus grande. C'est pas sur une saison, c'est pas sur deux saisons. Ça va être sur des décennies, j'allais dire presque sur un siècle. On va se dire, bah, globalement, il y a plus de phénomènes comme ça et moins de phénomènes comme ça. Mais pris d'année en année, oui, il y aura encore du froid. Nous, on a eu deux hivers avec beaucoup de neige dans les Alpes, alors qu'on dit, bah, il y aura moins de neige. Bah, là, il y en a eu beaucoup. Mais ça va être dans la moyenne de décennie en décennie qu'on pourra se dire, bah oui, quand même, globalement, il y a un peu plus, d'hivers doux que d'hivers rigoureux, mais ça n'empêchera pas encore de temps en temps qu'il y ait des hivers rigoureux. Alors, est-ce que c'est celui qui arrive? J'en sais rien, mais oui, on connaîtra encore des hivers où il fera très très froid, oui.
Et une dernière grande thématique, on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la submersion marine. Il y a une carte qui est sortie sur un site internet américain récemment et on peut voir le littoral qui sera, comment dire, englouti en partie en 2050. Vous y croyez à ces théories?
Alors moi, je ne crois absolument pas sur le territoire français. Là, pour le coup, je suis un peu plus formel. En revanche, ce qui se passe, c'est que le trait de côte, il bouge. Et ça, il bouge. On en a une partie de responsabilité, mais une partie, ça a toujours été comme ça. Quand je vois qu'on explique le réchauffement climatique et l'érosion par les falaises d'Étretat qui tombent régulièrement, alors ça, c'est une énorme escroquerie. Je veux dire, depuis la nuit des temps, ces falaises sont attaquées par la mer, et c'est le processus naturel, et là, les falaises tombent. Donc ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. En revanche, le trait de côte qui change parce que l'eau se dilate, parce qu'elle est plus chaude, donc globalement, la mer est un petit peu plus haute, oui, sur toutes les zones particulièrement plates, comme on peut avoir dans les Landes, comme on peut avoir dans le delta du Rhône, là, on peut voir des évolutions où le réchauffement climatique va avoir son importance. Il n'y aura pas que lui. Parce que si on prend le bassin d'Arcachon, il s'est ouvert, il s'est fermé bien avant l'ère industrielle. Donc ça veut dire que bien avant notre influence, le trait du littoral constamment bouger. Parfois la mer progresse, parfois c'est la terre qui progresse. C'est le cas dans le delta du Rhône, où globalement quand même, par rapport au Moyen-Âge, tout ce qui est Sainte-Marie-de-la-Mer, toutes ces zones qui ont été gagnées sur la mer. À cette époque-là, c'était de l'eau. Donc voilà, ça bouge. Et aujourd'hui, effectivement, on va ajouter à cette évolution-là, eh bien cette dilatation de l'eau de mer, donc cette eau de mer qui monte. Sauf que ça se fait de millimètre en millimètre. Donc combien de temps ça va prendre? Est-ce que un système compensera l'autre? Est-ce que les évolutions... Voilà, c'est compliqué, mais c'est clair qu'on a ajouté notre grain de sel à cette évolution du trait de côte.
Pour vous, il y aura peut-être une réduction de la côte, mais ce ne sera pas forcément aussi important que ce qui est présagé au final.
Non, pour l'instant non, et puis surtout ne mélangeons pas tout, mélangeons cette évolution naturelle qui a toujours existé. Je parle des falaises, parce que alors ça c'est, voilà, je pense que les vrais scientifiques ça les fait rire, parce que oui, de tout temps les falaises elles sont mangées, rognées, et d'ailleurs c'est comme ça que quand elles repartent à la mer, on a les galets qui se forment, et puis après, le sable. Voilà, et tant mieux, parce que comme ça alimente les plages de sable, et donc voilà, c'est un cycle tout à fait naturel. Qu'on accélère un peu ce cycle, ça, c'est indéniable, parce qu'effectivement, la mer monte un petit peu, mais bon, c'est encore à la marge, hein. Surtout dans nos pays. J'ai vu ça avec des responsables du GIEC qui travaillent sur l'élévation du niveau de la mer. C'est très compliqué, parce qu'en plus, ce niveau-là ne monte pas partout de la même façon. Des endroits du monde où la hausse est plus spectaculaire qu'à d'autres. Donc vous voyez que c'est... Voilà. En revanche, moi, pour finir, on va dire « Ouais, bah, disons, Louis, t'es quand même un peu trop optimiste. » ou autre. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut qu'on revienne à des considérations qui soient justes, scientifiques, et qu'on commence pas à tout mélanger et à tout dire et n'importe quoi. On a aujourd'hui à agir. On voit qu'on a des enjeux extraordinaires. On a ce réchauffement, on a le CO2, on a la biodiversité, on a la pollution, on a les déséquilibres que la météorologie a créé à travers le monde, avec des disparités, des inégalités qu'on ne va pas pouvoir supporter très longtemps. C'est-à-dire que les flux migratoires, les déséquilibres en termes de vie, de solidarité, de qualité humaine, ça va devenir ingérable sur la planète. Donc c'est-à-dire qu'on a à travailler dans tous ces secteurs-là en même temps. Et la météo est un de ces aspects. Le réchauffement climatique est seulement un des aspects de cette réflexion. Et comme par hasard, je suis peut-être un peu trop bavard, mais pour finir sur une note positive, toutes les actions qu'on va entreprendre, que ce soit pour la solidarité, que ce soit pour les autres espèces, que ce soit pour la planète, ce sont les mêmes actions. C'est-à-dire que chaque action qui agit positivement pour un de ces aspects joue pour les autres aspects. Et ça c'est positif. Parce que imaginez que pour préserver la biodiversité, il faille par exemple dénigrer une autre partie de notre réflexion sur le réchauffement ou autre. Là, on pourrait se dire « Waouh, ça va être compliqué ». Non. Tout ce qu'on fera dans l'axe de la solidarité, dans l'axe de la nature et des autres espèces, ça sera bon pour les autres aspects. Donc voilà, ça rend optimiste.